Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Camille parle sexe. Je suis toujours ravie de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque. Bon, j'imagine que oui, sinon vous passeriez pas... J'imagine que oui, parce que sinon vous me mettriez pas dans vos... J'imagine que oui, sinon vous ne serez pas là en train d'écouter cet épisode. Sauf si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de Camille parle sexe. Si c'est le cas, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et tous les autres épisodes, parce que il y a plus de 80 épisodes de Camille parle sexe, donc il y a de quoi rattraper pour apprendre toujours plus de la sexualité, découvrir le meilleur de l'éducation sexuelle, la crème de la crème en sexologie. Alors, posez-vous ou... Alors, posez-vous pour l'écouter, quoiqu'il y a des personnes qui aussi écoutent ce podcast en marchant, en cuisinant, en roulant, beaucoup en roulant, ou en faisant du sport aussi, ça arrive. Donc, chapeau. Moi, c'est vrai que les épisodes de podcast, je les écoute souvent en marchant, slash cuisinant, slash des fois en faisant de la peinture ou des mandalas. Voilà, comme ça vous savez tout. Bon, revenons à nos moutons. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler des mariages non consommés slash vaginisme. Pourquoi ce titre-là ? Alors, mon invitée, c'est Dr Sandrine Atala, qui est médecin, sexologue et hypnothérapeute. Et hypnothérapeute, cofondatrice de la plateforme Metel Metlik. J'espère que je le prononce bien. Elle nous en parlera un petit peu plus dans cet épisode. Docteur Sandrine Atala travaille au Liban et donc elle a plutôt une patientèle du Moyen-Orient avec pas mal de femmes arabes. Et donc pourquoi je le dis, c'est parce que ça va être au cœur de ce sujet-là, le vaginisme, mais plus précisément avec la patientèle qu'elle reçoit au quotidien, avec les problématiques, les difficultés que n'importe quelle personne peut avoir vis-à-vis du vaginisme. et avec des spécialités et avec des spécificités vis-à-vis de la population qu'elle reçoit au Liban. Donc c'est important de préciser. Et donc on a parlé de mariage non consommé parce que c'est ce qui parle le plus aussi à la population qu'elle reçoit. Mais cet épisode s'adresse finalement à toutes les personnes qui vivent du vaginisme. Donc on va voir plein de choses dans cet épisode avec les différents aspects de cette problématique. Qu'est-ce que le vaginisme? Quelles sont ses répercussions sur les femmes, sur les couples? Quelles sont les causes? Comment on traite ça? Comment on fait quand on a envie d'un enfant et qu'on a du vaginisme? Est-ce que c'est possible d'accoucher quand on a du vaginisme? J'aime beaucoup notre conversation avec Sandrine et j'aime beaucoup aussi les réflexions qu'on va apporter aussi vers la fin de l'épisode, donc écoutez jusqu'au bout. Je recommande vis-à-vis de ce sujet sur le vaginisme de lire le livre « Vaginisme, comprendre, se soigner, s'épanouir ». C'est un livre écrit par deux consoeurs, Margot Morel et Angela Bono. J'ai également créé un programme « Vaginisme » avec le docteur Gilbert Boujaoudé pour aider les femmes et les couples qui souffrent du vaginisme et pour vous accompagner sur l'aspect physique et psychosexuel dans le traitement du vaginisme. Je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Je vous mets aussi les liens vers Dr Sandrine Atala, qui a aussi également créé un programme sur le vaginisme en arabe pour accompagner les femmes, la patientèle qu'elle reçoit. Et donc, c'est précieux. Donc, voilà, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller voir, faire votre petite recherche. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute vis-à-vis de cet épisode. Je vous invite, si vous avez des questions, vous avez des remarques ou si simplement vous appréciez le podcast, à venir me parler sur Camille Parle Sexe, le compte Instagram, et à le partager, pourquoi pas, à une personne qui a eu, qui souffre de vaginisme et à qui ça pourrait aider. Donc vraiment, cet épisode s'adresse aux personnes qui ont du vaginisme, aux partenaires qui vivent avec une compagne qui ont du vaginisme. Voilà, bonne écoute. Sandrine, bienvenue dans Camille Parle Sexe.
Bonjour Camille et merci beaucoup pour cette invitation.
Super, et ben merci à toi. On va parler ensemble du sujet du vaginisme. Beaucoup de patientes consultent les sexologues, les médecins, les gynécologues par rapport à cette difficulté. Alors on va essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Déjà pour toi, comment, de quelle manière tu décris le vaginisme?
Le vaginisme, pour nous, dans les pays arabes, ce n'est pas seulement une histoire de description d'un symptôme ou d'un problème sexuel, mais aussi c'est plutôt la description d'une perception des rapports sexuels et des premières fois. Parce que c'est quelque chose de très très fréquent, c'est beaucoup plus fréquent qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Donc le fait d'avoir peur de la pénétration et d'avoir des contractions involontaires des muscles du périnée qui entourent le vagin et qui vont bloquer la pénétration, ce qui fait que la pénétration est soit impossible, soit très douloureuse. Même parfois, l'examen gynécologique est impossible. Insérer un doigt ou un tampon peut être très difficile ou impossible ou douloureux. Et en général, certaines patientes ne sont pas anxieuses, mais en général, c'est accompagné d'une anxiété, d'une peur de la pénétration, de la douleur, ou d'autres peurs qui sont basées sur des croyances irrationnelles. Mais c'est au-delà d'un problème sexuel, c'est un état d'esprit, on va dire, dans les pays arabes, parce que par définition, pour elles, pour les femmes arabes, le premier rapport sexuel doit être douloureux et saignant. Donc c'est ça le problème.
Ouais. Pour toi, ce que tu vois le plus, le problème, c'est que pour les femmes arabes, et puis peut-être même pour d'autres femmes aussi, mais la sacralisation du premier rapport sexuel et surtout cette croyance que ça doit faire mal et que c'est tellement sacré que c'est aussi, ça y est, le jour est arrivé, le jour dont on a tant entendu parler, et donc y a de l'anxiété, y a des peurs, il y a des croyances autour de ça.
Exactement, et comme on a attendu, il faut qu'il y ait une preuve que c'est vraiment la première fois. Donc on s'imagine que les preuves sont le sang et la douleur, plus le fait que comme on a un manque d'éducation sexuelle très très, on va dire, intense ou sévère dans les pays arabes, les femmes ne connaissent pas leur corps, elles ne connaissent pas leur vagin, elles n'ont jamais mis un miroir pour voir leurs organes sexuels. Elle s'imagine qu'il y a un hymen très épais et qui doit exploser et se déchirer lors de la première fois. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fausses croyances et une mauvaise image de soi, de son corps, un dégoût des organes sexuels et une peur de ce qui est à l'intérieur finalement.
Waouh, c'est une bonne description avec une liste évidemment non exhaustive, mais quand même assez bien décrite des raisons qui peuvent conduire au vaginisme. Déjà, les personnes, souvent, celles qui le vivent le savent, mais quelles sont les répercussions sur les femmes quand il y a ces difficultés-là, quand il y a du vaginisme, et puis les répercussions sur la vie de couple?
Ça dépend si la jeune femme ou la dame, parfois n'est pas jeune non plus, ça dépend si elle a un projet reproductif ou si est dérangée à cause du fait qu'il n'y ait pas d'intimité. Il y a toujours une sorte d'intimité, ça dépend des cas. Ou si elle est plutôt non mariée, single, célibataire, on va dire, et qu'elle n'a pas de partenaire. Donc, les répercussions sont très différentes d'une femme à une autre. Quand elles sont mariées, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les pays arabes qui attendent le mariage pour avoir des rapports sexuels, c'est un coup dur, c'est très difficile pour elles. Ça peut mener à une dépression. Ça aussi mène à une grande peur de divorcer, que le mari se fâche et parte, ou qu'il prenne une deuxième épouse aussi. Il y a une grosse pression de la société pour avoir des enfants. Donc aussi, il y a vraiment une grande anxiété par rapport à la reproduction. Et certaines vont aller vers des voies d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro parce qu'elles ne veulent pas attendre. Ça peut avoir des répercussions majeures sur le couple, du genre des accusations, des blâmes, de la violence, des problèmes sexuels chez l'homme, parfois un manque de désir qui va résulter du vaginisme, une incapacité à arriver à l'orgasme, si elle arrivait à l'orgasme avant par les caresses, par le sexe externe, de plus arriver à l'orgasme parce qu'elle a peur, elle pense au rapport sexuel qui ne va pas être réussi. Après, si c'est un couple qui n'a pas de projet clair par rapport à la reproduction et où l'homme n'est pas très, disons, demandeur par rapport à la sexualité, qui aime beaucoup sa partenaire, qui est très gentil, qui est très doux, parfois les répercussions prennent du temps à apparaître. Des fois, on voit des couples qui sont ensemble depuis 8 ans, sans rapport sexuel avec pénétration, sans pénétration vaginale, mais qui sont très contents, qu'il n'y a pas de conflit, ils ont une sexualité épanouie, mais sans pénétration. Donc, ça va dépendre du couple. Après, chez les jeunes femmes qui sont célibataires, c'est le grand questionnement, qui va vouloir de moi? Comment je vais faire quand je vais rencontrer un mec? Je dois régler ce problème, je ne suis pas une femme, tout le monde a des rapports sexuels et des enfants, pourquoi moi j'ai cette tare ou j'ai ce problème, je ne comprends pas, etc., etc. Après, si les raisons sont liées à un abus sexuel ou à un viol, déjà, l'état d'esprit est différent. Déjà, le rapport au sexe est très, très différent.
On va revenir justement sur comment on peut traiter ça. Mais tu parlais par exemple des femmes célibataires qui souvent vont consulter parce qu'elles se disent « je ne peux pas rencontrer quelqu'un » ou alors « quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas plus loin, j'arrête tout de suite parce que je sais que ça va aller plus loin mais que je ne suis pas capable d'aller plus loin parce que ça ne va pas fonctionner » entre guillemets. Pour toi, comment tu approches ça? Est-ce que tu te dis que oui, il faut qu'elles puissent traiter le vaginisme avant pour gagner en confiance? Est-ce qu'elles peuvent rencontrer quelqu'un et ensuite traiter le vaginisme? Comment tu approches ça?
Il est déjà important de traiter le vaginisme d'une façon, disons, psychologique et mécanique sans partenaire si elles n'ont pas de partenaire pour qu'elles puissent avoir accès à leur corps, ne plus avoir de difficultés à avoir, je ne sais pas, insérer un dilatateur ou un tampon ou un sextoy, pouvoir aller chez le gynécologue. Déjà, ça, c'est très important. Après, peut-être, ça va être un peu plus compliqué avec un partenaire et il faut être franche. Il faut qu'elles puissent en parler avec le partenaire. Le problème, c'est que d'habitude, ce qu'elles font, c'est qu'elles sélectionnent des partenaires qui ne sont pas très available, c'est-à-dire...
disponibles.
Le mec qui... Oui, qui ne sont pas disponibles. Le mec qui voyage ou qui est déjà marié ou qu'elles vont voir de temps en temps. Donc, pour ne pas avoir à se justifier. Et elles ont peur d'être jetées si elles vont être dans une relation de longue durée et dire « moi, j'ai ce problème, il va falloir qu'on aille petit à petit ». Mais bien sûr qu'on va les encourager à être franches parce qu'elles ont besoin du soutien du partenaire pour pouvoir explorer le monde de la pénétration vaginale après avoir souffert d'un vaginisme.
Totalement. Et du coup, tu parlais de l'approche mécanique, l'approche psychologique. Bah, venons-en justement sur les personnes qui souffrent de vaginisme. Comment elles peuvent aborder cette problématique-là? Quels professionnels elles doivent voir? Et comment ça se traite en grandes étapes?
Alors pour moi, le vaginisme, la première consultation doit être chez le gynécologue pour être sûr qu'il n'y a pas de malformation de l'hymen ou du vagin. Ça, c'est une première étape. Et en général, le gynécologue pourra mettre le diagnostic de vaginisme s'il est assez équipé et éduqué en la matière, parce que pas tous les gynécologues savent que le vaginisme existe. Donc, il y a ce problème. Une fois qu'on a mis le diagnostic, il y a plusieurs possibilités. Nous, on préfère une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y ait un traitement avec soit un sexologue ou un psychothérapeute ou une psychothérapeute formée en sexologie, avec peut-être l'aide d'une physiothérapeute ou d'une sage-femme formée en rééducation périnéale. Ça dépend des femmes si elles acceptent de travailler sur leur corps directement en physiothérapie ou pas. Je pense que c'est très très important de savoir qu'on ne peut pas régler juste avec une thérapie habituelle, classique. Donc je parle de mon problème, je sais quelle est la raison et bon, j'ai fini du vaginisme. Non, il va falloir faire face à la peur, il va falloir déjouer le mécanisme de défense, s'habituer à contrôler ses muscles, y aller petit à petit. Donc il faut vraiment que la personne qui va mener la thérapeutique, la conduite thérapeutique, s'y connaisse en sexologie et en vaginisme. Après, certaines femmes vont le faire avec du self-help, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un bouquin et aller petit à petit
ou un programme.
Voilà, tout à fait, comme le programme que toi et Gilbert que vous avez lancé, ou le programme que nous avons lancé en langue arabe, Dr Gaël et moi. Parfois, ce n'est pas suffisant. Des fois, c'est suffisant de le faire toute seule parce qu'on a des questionnements. Il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur. Donc, quand elles commencent les exercices, elles ont vraiment, vraiment des peurs irrationnelles, parfois archaïques, beaucoup de questionnements. Des fois, ça fait remonter beaucoup de passifs, de vécus, de souvenirs. Moi, je pense que pouvoir donner un soutien psychologique est important, mais ça dépend. Des fois, le vaginisme n'est pas très sévère. Elles arrivent à le faire toutes seules à l'aide d'un livre ou d'un programme.
Super, c'est super intéressant tout ce que tu dis. J'ai noté plein de choses pour te poser plein de questions, mais c'est vrai que par rapport au programme, au livre, au self-help, ça aide certaines femmes et elles y arrivent très bien. Mais souvent, c'est vrai que je vois que c'est un bon début et qu'elles ont besoin effectivement d'un suivi, en plus un accompagnement personnalisé avec quelqu'un en face par rapport aux difficultés, aux peurs, à l'anxiété et même au sein du couple aussi. Il y a certains couples qui font les programmes ensemble, mais des fois, voilà, comme tu disais, c'est important que le partenaire puisse être investi. Donc voilà, des choses à voir vis-à-vis de ça. Donc tu disais d'abord un rendez-vous chez un ou une gynécologue qui est formée effectivement au vaginisme, parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Et tu parlais aussi... par exemple, qu'il peut y avoir une malformation, une difficulté au niveau de l'hymen, au niveau du vagin. Et par exemple, dernièrement, j'ai une femme qui, son gynécologue lui a dit qu'elle avait un hymen dur, donc j'imagine un hymen épais, et qui lui recommandait une chirurgie pour venir traiter le vaginisme. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça ?
Si elle a un hymen épais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un vaginisme. Parfois, le vaginisme est secondaire à l'hymen épais. Donc, la première étape, si vraiment l'hymen est épais, il faut faire une hyménectomie. Mais après, si elle a un vaginisme secondaire à l'hymen épais, il faudra traiter le vaginisme. Parce que ça dépend. Il y a certaines femmes qui vont avoir un premier rapport sexuel très, très douloureux. En effet, elles vont chez le gynécologue qui a un septum ou qui a un hymen qui est épais. Elles font la chirurgie. Après, elles continuent leur vie normale. Ça dépend si vraiment il y a eu un développement d'un vaginisme secondaire. Et parfois, certaines ont peu de chance, elles ont les deux en même temps. Donc, il faudra traiter les deux. Vas-y. Oui, tout en sachant que la chirurgie peut être en elle-même traumatique aussi.
Exactement. C'est pour ça quand cette personne-là me demandait par rapport à l'opération, je disais, voilà, avant peut-être cette opération-là, parce que c'est invasif aussi, c'est pas évident, on va quand même faire un examen, une anamnèse, de venir déjà questionné. Et finalement, il s'est révélé que pour cette patiente, elle a subi des agressions sexuelles dans le passé qui la terrorisent et qui lui, à chaque fois que son mari vient vers elle, ça lui rappelle ça. Et donc, effectivement, on pourrait lui enlever son hymen, mais ça n'enlèverait pas la peur de la pénétration. Non. Et donc, déjà, en fait, il y a déjà du psychologique, de l'accompagnement là-dessus.
Tout à fait, c'est fréquent, c'est des cas qui sont fréquents. Après, il faut être sûr que vraiment l'hymen est épais. Parce que moi, comme je suis médecin, j'examine les femmes, mais parfois vraiment, c'est vrai qu'elles ont tous les signes du vaginisme, mais il y a un obstacle, un vrai obstacle organique. On ne peut pas commencer à traiter un vaginisme si l'obstacle organique n'a pas été traité, parce que ça serait les faire subir beaucoup, beaucoup de douleurs. C'est inutile. Donc, il faut traiter s'il y a quelque chose d'organique et puis commencer le traitement du vaginisme.
Et tu parlais du coup donc, de cette approche psychologique avec des sexologues, des psychologues, et puis une approche aussi physique avec des physiothérapeutes, des kinés, des sages-femmes. Pareil, là, la question aussi pour beaucoup de femmes et peut-être là, les femmes arabes, où il y a cette question de « oui, mais si je vais voir une sage-femme ou une kiné pour la rééducation du périnée, est-ce que on va venir introduire les doigts à l'intérieur de mon vagin? Est-ce que je vais perdre mon hymen ?» Et c'est quelque chose qui est souvent sacré, important pour elle. Qu'est-ce que tu répondrais dans ces cas-là?
Ça dépend dans quel contexte elles se présentent, parce que quand elles sont mariées et qu'elles sont sûres que leur partenaire ne va aller nulle part et qu'elles veulent vraiment régler le problème, elles n'ont pas de problème que l'hymen s'en aille du fait du traitement. Ça, c'est pas une question qui se pose. Mais elles ont peur de faire le traitement avec quelqu'un d'autre, avec une tierce personne. Donc, c'est ça ce qui est le plus compliqué, c'est d'accepter que quelqu'un approche mon corps et que quelqu'un travaille avec moi. On a beau leur expliquer que ça sera un travail très doux, avec un travail sur la respiration, peut-être de la sophrologie, mais ça peut les paniquer. Après, si elles sont dans une relation conflictuelle où elles se disent « je ne sais pas si on va continuer ensemble », il faut aller un peu ici, il faut fouiller un peu plus loin, parce que vaginisme aussi, ça peut être une protection dans le couple. Si elles se sentent en danger, elles ne vont pas accepter de faire un traitement et du coup, elles vont même refuser les exercices. Et là, le traitement est très difficile parce qu'elles vont refuser elles-mêmes d'utiliser leurs doigts ou d'utiliser les dilatateurs vaginaux. Bien sûr, elles vont refuser la physiothérapie, ce qui rend le traitement assez difficile. Pour certaines, c'est vrai que pour certaines personnes célibataires ou qui sont encore fiancées, elles vont se poser la question. Ici, on va leur expliquer que l'hymen, ce n'est pas un signe de virginité, que la virginité, c'est elles qui vont la définir, que c'est vraiment une construction sociale et que si pour elles, le sexe est une pénétration vaginale, elles ne vont pas avoir des rapports sexuels avec la physiothérapeute, ni avec leurs doigts, ni avec un dilatateur. Donc, même si l'hymen n'est plus là, elles n'ont pas encore eu des rapports sexuels vaginaux. Mais là aussi, il est important de parler avec le partenaire, s'il existe, ou le mari, pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire.
Oui, et c'est pour ça que c'est important aussi, des fois et souvent, moi en tout cas, dans les séances, de l'intégrer. Je ne sais pas si c'est des choses que tu proposes aussi aux femmes, de leur dire c'est important aussi que votre partenaire puisse être là ou puisse avoir des informations aussi pour que le processus soit compris des deux et d'être sûr aussi, comme tu disais, parce que des fois, il peut y avoir des conflits. Donc, avant de régler le vaginisme, des fois, il faut pouvoir régler les tensions dans le couple. Est-ce que c'est des choses que tu proposes?
Évidemment, parce que le partenaire joue un rôle dans le couple et après, petit à petit, elle va devoir passer aux exercices avec son partenaire et puis passer à la pénétration avec le partenaire et pas toute seule. Donc, il faut intégrer le partenaire. Il faut aussi comprendre s'il est violent sexuellement, physiquement, moralement. Est-ce qu'il met une pression négative ou positive sur la femme? Est-ce qu'il peut être une des raisons du vaginisme? Moi, j'ai eu des jeunes femmes qui souffraient de vaginisme et qui, avec un autre partenaire, ont tout de suite pu avoir un rapport sexuel. Bon, on avait bien évolué dans le traitement, mais elles étaient encore à une étape où avec leur partenaire, elles n'arrivaient pas. Et une fois qu'elles ont rompu, c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, il ne faut pas oublier que le sexe aussi, c'est de l'excitation, c'est du désir, c'est une interaction entre deux personnes. Il faut se sentir en sécurité avec l'autre. Il y a plein, plein de facteurs. Ce n'est pas seulement pénétration d'un pénis dans un vagin.
Super, c'est bien de le dire. Effectivement, ça dépend de plein de choses et de tout un contexte. Et d'ailleurs, dans cette optique où c'est pas la sexualité qu'un pénis dans un vagin, est-ce que tu abordes aussi justement que la sexualité, ça peut être plein de choses et justement, des fois, les personnes qui ont du vaginisme, je trouve qu'ont une sexualité beaucoup plus riche et variée parce qu'elles n'ont pas accès à la pénétration et que du coup, le couple qui s'entend bien, qui communique, s'adapte aussi facilement.
Tout à fait, ça dépend du couple. Donc il y a des couples qui vont être très épanouis avec une sexualité sans pénétration, des pratiques sexuelles externes ou même avec du sexe anal. Et puis il y a d'autres couples qui vont avoir des difficultés parce que l'homme peut sentir qu'il est en échec et avoir une perte de l'érection ou une éjaculation rapide. Et la femme peut se sentir aussi en échec et ne plus avoir envie d'être intime avec son partenaire parce qu'elle a l'impression qu'on n'est pas en train d'aller jusqu'au bout. Surtout que beaucoup de couples n'arrêtent pas d'essayer. Donc, c'est soit on essaie de faire une pénétration, soit on ne fait rien. Ce ne sont pas tous les couples.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Qui vont savoir, ok, on n'arrive pas à faire ça, on met pause sur les rapports sexuels avec pénétration vaginale et on explore d'autres, disons, aspects de la sexualité. Ça dépend vraiment, vraiment du couple et de la relation qu'il y a entre les deux partenaires, s'ils sont vraiment proches, amis, complices, parce qu'on a besoin de tout ça aussi pour explorer sa sexualité.
Ouais, et tu as dit quelque chose qui m'a surpris, puis je me faisais toute une réflexion là-dessus, parce que je me disais, ah, donc il y a des personnes qui ont du vaginisme, mais qui peuvent avoir des pénétrations anales. Alors, j'en ai pas forcément vu en séance,
non, j'en ai beaucoup.
Mais j'imagine, oui, que tu en as beaucoup, et du coup, ça serait parce que là, la pénétration vaginale, il y a l'hymen, et que c'est sacré, parce que peut-être la peur d'une grossesse. Et comment tu expliques ça, qu'il y ait du vaginisme pour de la pénétration vaginale, mais pas anale?
C'est l'impact de nos sociétés parce que déjà dans le Haut Moyen-Orient et dans les pays arabes, comme on doit préserver l'hymen, beaucoup de femmes, pour donner du plaisir aux partenaires, pratiquent le sexe anal. Donc on préserve l'hymen et soi-disant, parce que aussi nous on sait que l'hymen n'est pas un signe de virginité, et on fait, on a d'autres pratiques. Après, il ne faut pas oublier que le vagin est un organe qui est différent de l'anus. L'anus, son sphincter et ses muscles sont plus externes, donc il est plus facile de les relâcher et le muscle ne va pas serrer d'une façon à ce que la pénétration soit impossible, tandis que les muscles qui entourent le vagin sont un peu plus internes et du coup, vraiment, quand les muscles ferment, la pénétration est impossible. En plus, les positions n'aident pas. C'est-à-dire que si l'homme est au-dessus de la femme quand elle va fermer ses jambes, le vagin est inaccessible. Tandis que l'anus est facilement accessible par l'arrière. C'est pas le cas du vagin. Après, il y a certaines femmes qui ont aussi peur qu'on touche l'anus, qu'elles mettent des suppositoires dans l'anus. Il y a des femmes qui ont même peur de leur ombilique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peurs archaïques liées à l'enfance. Certaines ne peuvent pas mettre des lentilles dans leurs yeux, c'est-à-dire que tout ce qui a à voir au corps, comme une transgression du corps, leur fait peur. Mais moi, oui, j'ai beaucoup de patientes qui vont avoir des rapports sexuels du sexe anal, parce que comme on a dit, depuis qu'elles sont petites, on leur dit il faut faire attention. Il y a une expression qui est horrible en arabe qui dit que la femme, c'est comme une vitre. Et une fois qu'elle est cassée, on ne peut pas la recoller.
Wow.
Il faut préserver cet hymen. Il faut refuser la pénétration vaginale. Donc, on est en train de provoquer un vaginisme. Je ne sais pas si tu es au courant, en Tunisie, j'ai découvert ça dans les congrès qu'on a fait en Tunisie. Oui. Ils ont même une pratique, un rituel, où ils créent un vaginisme chez la petite fille. Donc, à 7 ans, on lui dit qu'on va fermer le vagin et qu'on pourra rouvrir le vagin que quand elle sera mariée. Et on lui... symboliquement, on va lui blesser le genou et ça symbolise le fait de rouvrir le vagin, en fait. C'est ouais. horrible. C'est vraiment...
c'est vraiment... de cadenasser, en fait, c'était ça. Oui, on nous l'avait dit, je pense, dans un des cours où vraiment il y a cette boîte, il y a ce cadenas, on jette le cadenas, il pourra être réouvert au moment du mariage. Et c'est souvent aussi ce que je dis, c'est pendant... des décennies, des années, on vous parle que c'est cadenassé, et puis soudainement, vous êtes mariés, il faudrait que tout s'ouvre, que tout soit facile, et donc ça demande aussi beaucoup de travailler sur ça, toutes ces croyances. Et tu parlais de l'hymen, où dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes, où il y a vraiment cette sacralisation de l'hymen, toi tu disais, bah voilà, l'hymen, on sait très bien que maintenant, enfin, c'est un concept, c'est le concept de virginité. Est-ce que, parce que moi je trouve que de mon point de vue, c'est même si je sais ça, c'est difficile de l'imposer quand il y a ces croyances-là. Est-ce que toi, tu essayes de casser ces croyances-là en donnant cette information-là? Comment tu
Moi,
fais?
Je leur explique d'une façon médicale et scientifique. Je leur explique scientifiquement ce que l'on sait. Après, je leur dis que je suis en total respect de leurs croyances, mais que pour pouvoir avancer, il va falloir qu'elles décident ce qu'elles veulent. Moi, je ne peux pas imposer mes croyances, mais je leur explique scientifiquement ce que c'est. Après, elles décident de faire ce qu'elles veulent. Certaines vont me dire... par exemple, j'ai certaines femmes qui vont venir chez moi, ça c'est en dehors du sujet du vaginisme, mais qui vont me dire, est-ce que j'ai eu un rapport sexuel? Moi, je leur dis, écoutez, moi, je peux vous décrire votre hymen. Je ne sais pas si vous avez eu des rapports sexuels. Je n'ai aucune idée, je ne peux pas vous dire vous êtes vierge ou pas vierge, j'en sais rien et je ne vais pas vous moquer, je vais pas me moquer de vous. Et si elles vont me dire on veut faire une hyménoplastie, là je vais leur dire pour moi c'est pas, ça ne sert à rien, ça ne représente pas la virginité, mais si vous insistez, je vais leur donner des contacts. Je peux pas, je suis là pour les aider, moi je ne suis pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues finalement.
Ouais, donc c'est beaucoup, ça passe beaucoup par de l'information, tu transmets ce que tu sais avec les recherches à un niveau médical, et puis ensuite, libre à elle, vis-à-vis de ces informations-là, ce qu'elle souhaite en faire.
Tout à fait, tout à fait.
Et tu parlais du coup tout à l'heure, tu as déjà donné quelques exemples, mais souvent on parlait de couples où c'est impossible la pénétration et ils ont une sexualité épanouie, mais vient le moment où ils ont envie d'avoir un bébé, et là ils peuvent venir pour... justement traiter le vaginisme parce qu'il y a ce désir de bébé. Est-ce que quand il y a du vaginisme, c'est difficile à concevoir? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont du vaginisme et qui arrivent à tomber enceinte? Quelles sont les méthodes qu'elles peuvent utiliser à côté, évidemment, de traiter le vaginisme?
Ce n'est pas conseillé de tomber enceinte avec un vaginisme parce que si on tombe enceinte avec un vaginisme, il se peut qu'on continue toute sa vie avec le vaginisme. Donc, en général... on conseille de commencer par le traitement du vaginisme. Après, si une personne a 40-41 ans et elle me dit « moi, je n'ai pas le luxe d'attendre 3 à 6 mois pour faire mon traitement », à ce moment-là, qui je suis pour lui dire « non, il faut traiter le vaginisme avant ». Elles peuvent tomber enceinte par éjaculation externe. J'ai beaucoup de patientes j'ai reçu une patiente qui était enceinte. Après, j'ai des femmes qui sont venues chez moi après 8 ans ou 15 ans de mariage qui avaient déjà 2 ou 3 enfants.
Donc c'est pour montrer que c'est possible, avec une éjaculation proche du vagin, sans pénétration, mais c'est possible quand il y a c'est au bon moment du cycle aussi, c'est possible.
Ouais. Si elle est fertile, ça dépend aussi de combien la personne est fertile et combien le couple est fertile. Après, il est possible aussi d'aller par le chemin de l'insémination artificielle et des fécondations in vitro, mais là aussi, j'explique que c'est un processus qui est invasif et qui peut être traumatisant en soi, donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Après, les gynécos qui vont dire oui, et l'accouchement va dénouer le vaginisme.
Régler tous les problèmes.
Ce n'est pas vrai, parce que toutes, non, elles accouchent en césarienne. Elles n'acceptent pas d'accoucher en voie basse. Bah, okay. Il faut faire des touchés pour faire l'examen en voie basse. Et comme elles n'acceptent pas le toucher et que personne n'est patient, c'est rare qu'il y ait une sage-femme qui soit vraiment patiente ou un gynéco qui soit assez patient ou patiente, elles vont passer en césarienne. Déjà que les césariennes sont fréquentes au Moyen-Orient parce qu'on veut préserver le vagin. Donc, on a beaucoup aussi de croyances liées à l'accouchement.
Ok, ouais, donc il y a pas mal de croyances. Cette croyance que oui, l'accouchement va dénouer le vaginisme, il faut tomber enceinte, etc. Et bah, finalement, non, parce que ça ne règle pas la peur de la pénétration, comme tu disais, ou de l'anxiété vis-à-vis des rapports intimes et des rapports sexuels. Il y a aussi, est-ce que tu as déjà eu des patientes où il y a eu l'utilisation de seringues un peu artisanales, de mettre du sperme dans une seringue et de venir inséminer?
Oui, oui, certaines l'ont déjà fait. Bon, le taux de réussite n'est pas très, très élevé, mais c'est vrai que déjà, il faut qu'elles acceptent d'insérer la seringue. Ça, aussi. C'est aussi, oui, c'est un challenge en soi. Mais oui, oui, les couples ont beaucoup de ressources. Après, tout dépend aussi, comme on a dit, de la fertilité du couple. Ils ne sont pas vraiment médecins, elle ne sait pas vraiment quand elle ovule, elle n'est pas en train de stimuler son ovulation, est-ce qu'elle fait ça à chaque cycle, combien de fois, donc ça dépend vraiment de combien le couple est fertile.
Oui, et puis souvent on peut entendre beaucoup de méconnaissances vis-à-vis du cycle menstruel, de ne pas savoir quand est-ce qu'on ovule, et donc ça n'aide pas forcément à être dans le bon timing justement vis-à-vis de l'insémination. Tu parlais tout à l'heure des dilatateurs et c'est une question qui peut revenir aussi souvent. Est-ce qu'il faut forcément passer par la case dilatateur pour soigner le vaginisme?
Pas forcément. Certaines femmes vont utiliser les doigts, d'autres vont passer par la case physiothérapie et d'autres, elles vont confectionner leur propre dilatateur, leur propre façon de faire. Et puis d'autres, ça va être... entre leurs doigts et les doigts du partenaire. Mais il faut explorer le vagin. Ça, c'est obligatoire. Il faut surmonter la peur, commencer petit et apprendre à contrôler les muscles et aussi à désapprendre le mécanisme de défense et la contraction au niveau des muscles du périnée.
Désapprendre les mécanismes de contraction des muscles du périnée parce que c'est ces contractions-là qui font qu'il y a des douleurs ou l'impossibilité de pénétration. Surmonter la peur de la pénétration et peut-être des rapports intimes et sexuels. Explorer le vagin, il va falloir passer, mais comme tu le disais, au rythme, pas à pas, quelque chose d'extrêmement rassurant et doux pour que la patiente accepte finalement qu'il y ait ce toucher quand elle-même se touche ou que le partenaire ou la kiné, la sage-femme, la physiothérapeute de vraiment passer par là. C'est une question qui est toujours difficile à répondre, mais souvent les patientes viennent avec cette question. En combien de séances on traite le vaginisme?
Il n'y a pas de nombre fixe. Donc, ça peut être de 2-3 séances à une douzaine de séances. Ça va dépendre de la sévérité de la peur. Ça va dépendre aussi de la sévérité de la contraction, parce que certaines femmes n'ont plus peur. Il y a vraiment une hypertonicité des muscles du périnée. Moi, parfois, j'ai eu des patientes qui ont eu besoin des dilatateurs. Et après les dilatateurs, elles ont eu besoin d'une physiothérapie. Et on a dû donner aussi des antidouleurs et des relaxants musculaires parce qu'il y avait vraiment une hypertonie musculaire. Donc, ce n'est pas seulement le côté psychologique qui va donner la contraction. Des fois, vraiment, les muscles sont habitués à être super tendus et il est difficile de les détendre. C'est vraiment différent d'une femme à une autre. Moi, j'ai eu des patientes où juste il a suffi de faire un examen pour dénouer le vaginisme. Quand elles ont vu, ah oui, vraiment, je peux insérer mon doigt et deux doigts, et ça a été magique. Et je me rappelle d'une patiente, je lui avais dit, ok, on va commencer avec les dilatateurs. Moi, j'explique toujours que c'est environ 2 semaines chaque taille, chaque étape, environ. Et elle revient après 2 semaines, elle me dit, j'ai fini. Je dis oui, donc vous avez fini la première taille. Elle m'a dit, ah non, j'ai fini les 6 tailles, je croyais qu'il fallait faire les 6 tailles. Je dis ok. C'est très bravo. Mais ça, pardon. Ça veut dire que vraiment c'est très différent d'une personne à l'autre. Après il y a des personnalités phobiques où ça va. Moi j'ai une patiente, ça fait 10 mois que je la vois. On est encore à l'étape. Je mets un miroir et j'approche un coton-tige et c'est parce que il y a des cas qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds. Des causes psychologiques liées à des traumas répétés, à une emprise des parents, c'est parfois très complexe.
Du cas par cas, hein, c'est toujours la question très difficile à répondre, mais avec les douleurs ou le vaginisme, c'est quand c'est bien pris en charge avec cette approche multidisciplinaire, ça se traite bien. En termes de nombre de séances, ça varie d'une personne à une autre, mais il faut garder cet état d'esprit que ça se traite, et donc ça part aussi de la confiance, et donc c'est travailler aussi beaucoup ça, parce que comme tu disais, souvent il y a des profils anxieux, phobiques, tout dépend de là où on part, mais donc il va falloir aussi beaucoup réassurer, travailler là-dessus, etc. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes, mais ça se traite bien.
C'est-à-dire, par exemple, là j'ai une patiente qui a une peur panique de la grossesse. Et du coup, elle oblige son partenaire à se laver à chaque fois qu'il approche, à laver ses mains. Ils n'ont pas de pénétration, ils souffrent d'un vaginisme. Quand ils ont des pratiques externes, un des deux doit porter les sous-vêtements. Puis s'il enlève son sous-vêtement, elle doit renettoyer toutes les surfaces. C'est un cauchemar. C'est-à-dire que c'est
très contrôlant.
C'est plutôt un TOC. Oui, on est plutôt dans quelque chose d'obsessionnel et compulsif qui a besoin d'un traitement plus élaboré, qui va prendre plus de temps pour qu'elle puisse se débarrasser de tous ces rituels, bien qu'elle ait l'information scientifique et qu'elle sache qu'on ne tombe pas enceinte juste en voyant du sperme ou en étant sur des draps où il y a du sperme. Ça va prendre beaucoup plus de temps.
Et là, quel est le message que tu aimerais dire, transmettre aux femmes qui nous écoutent et qui vivent du vaginisme, qui ont du vaginisme, ou même aux partenaires qui vivent avec des femmes qui ont du vaginisme et qui aussi ne savent pas quoi faire, sont perdus, etc.
Bon, pour les partenaires, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas contre eux, que ce n'est pas un manque d'amour ou un manque de désir, que c'est même souvent même pas sexuel le problème du vaginisme. Et que pour les femmes, c'est vrai, les premiers pas sont difficiles, mais une fois qu'elle démarre, ça devient de plus en plus simple. Mais il faut avoir le courage de démarrer. C'est vrai que ce démarrage n'est pas simple. Il faut vraiment faire face à cette peur. La majorité des cas, des personnes qui font le travail réussissent. On n'a pas de cas où les personnes ont suivi le protocole thérapeutique sans réussir. Après, si elles ne le font pas, oui, elles ne vont pas y arriver. On n'est pas obligé d'avoir une sexualité vaginale. C'est elles qui choisissent. C'est pas pour les obliger, mais il est important qu'une femme ait un rapport avec son vagin, c'est-à-dire que son vagin soit accessible, qu'elle puisse faire ses frottis, qu'elle puisse faire ses examens gynécologiques. C'est important pour elle d'être complète, qu'il y ait une partie qui manque dans son corps, un vagin qui n'existe pas. Mais on peut pas les obliger. C'est-à-dire que oui, on peut traiter, on est là pour les aider, mais elles sont libres de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles doivent être convaincues pour réussir.
Pour réussir, et puis c'est bien de dire aussi, au-delà de la sexualité, où ça peut être une sexualité, comme on a dit, très riche, sans pénétration, c'est aussi de l'ordre de la santé sexuelle, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, parce que c'est souvent ça aussi, c'est du coup des femmes qui vont éviter d'aller contrôler leur santé, d'aller chez le gynécologue, la gynécologue ou le médecin, parce qu'il y a cette peur du contrôle, de l'examen vaginal, et donc vraiment c'est aussi une question de santé sexuelle aussi.
C'est très important. Moi, j'ai reçu une patiente, elle avait 60 ans, elle n'avait pas encore eu de rapport sexuel avec pénétration. Elle s'était mariée sans pénétration et puis elle avait divorcé. Et puis, elle a eu un partenaire, ça faisait 5 ans qu'elle était avec lui. Pas de pénétration encore. Par chance ou par hasard, sans frottis, elle découvre qu'elle a un cancer du col de l'utérus quand même. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'HPV, on peut l'attraper même sans pénétration. et que les frottis sont vraiment très importants. Il n'y a pas que le cancer du col de l'utérus. Il faut pouvoir avoir accès au vagin. Donc, c'est rare de trouver à cet âge-là des cancers, mais elle s'est retrouvée à 59 ans à faire un traitement pour le cancer du col de l'utérus. Après la chirurgie, bon, elle souffrait toujours du vaginisme. Et puis, en plus, il y a la problématique de la ménopause qui n'aide pas parce que la sécheresse, l'atrophie vaginale, elle n'avait jamais pris d'hormones. Ça ne facilite pas le traitement.
La santé sexuelle, de savoir que la sexualité, ça peut être varié, que le vaginisme se traite bien et que pour les partenaires, ce n'est pas contre eux. Et donc, de continuer à faire équipe et de trouver des solutions ensemble et d'aller consulter aussi ensemble, sans pression, avec de la communication. Je n'ai jamais jugé d'y aller avec des pincettes aussi, hein, comme je te disais, ou quand j'ai eu ce couple-là qui me posait des questions sur la chirurgie vis-à-vis de l'hymen, mais aussi elle avait cette peur hein, de faire les séances en physio parce qu'elle avait peur que ça vienne toucher l'hymen, etc. Donc voilà, je prends aussi des pincettes et je dis qu'il n'y a pas d'obligation, que c'est sûr que ça aide quand on peut venir justement appréhender l'entrée du vagin, venir détendre les muscles, mais qu'aussi elle fasse comme elle le sente aussi selon ce qui est important pour elle. Donc toujours, comme tu disais, donner de l'information, avoir une sensibilité vis-à-vis de ce que la personne vit, ses croyances, etc. Mais en donnant de l'information et puis qu'ensuite, elle fasse ses décisions, mais en sentant que c'est des décisions où elle est libre de choisir aussi.
Tout à fait, tout à fait. C'est très, très important. Elle doit être convaincue, elle doit se sentir comprise. L'empathie est très importante. Et bien sûr, on doit respecter son point de vue.
Super. Merci beaucoup, Sandrine, pour tes partages. Enfin, je sens toute la bienveillance et je me dis, waouh, t'es patiente. Celle qui découvre, les personnes qui découvrent aussi ton contenu, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je pense que sentent ta bienveillance et ça fait énormément de bien, surtout sur le sujet de la sexualité qui est tabou et sur le sujet du vaginisme où il y a tant de souffrance. Je pense que c'est important d'apporter de la lumière, de la bienveillance, de la réassurance.
Merci à toi Camille, et je pense que tu fais pareil et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Après nous, on entend tellement d'histoires horribles, c'est-à-dire nous venons d'une culture qui peut être assez violente, c'est-à-dire que moi je vois des patientes qui ont été violées indirectement à l'hôpital sous anesthésie générale, parce que le médecin a dit on fait une anesthésie et après votre mari a un rapport sexuel avec vous. Ou qui ont enlevé l'hymen et qui se sont réveillés avec un dilatateur entre les jambes, complètement en panique. D'autres qui sont passés par la case religieux, hommes religieux qui leur ont dit « moi je fais le rapport sexuel ». Des horreurs, j'ai vraiment entendu des horreurs. Des familles qui trouvent leurs solutions, vraiment des solutions très très bizarres, avec beaucoup de magie et de sorcellerie qui rentrent. Donc on entend des histoires vraiment très très traumatisantes et on a besoin d'être très empathique parce que faire face à une peur, c'est pas facile.
Non.
Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'ascenseur qui ne vont pas faire un traitement parce que c'est pas facile de traiter des peurs. Il faut vraiment vraiment aider la patiente à faire ses petits pas.
Ouais,
et ça, c'est plus simple.
Petit pas avec douceur et bienveillance. Sandrine, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou les personnes qui sont intéressées de te découvrir un petit peu plus?
Alors moi, je suis sur Instagram, Dr Sandrine Atala. La plupart de mon activité est sur Instagram, aussi sur TikTok, YouTube, sur certains réseaux sociaux. Après, nous avons monté une plateforme pour les femmes arabes qui s'appelle Metli Metli, ça veut dire comme toi, comme moi, on est pareil. Et sur cette plateforme, on va lancer des cours en ligne en langue arabe pour les femmes, pour la santé sexuelle des femmes. On a commencé par un premier programme sur le vaginisme, mais bientôt, on va sortir un programme sur la sexualité au sein du mariage, les basiques de la sexualité et le yoga pour une meilleure santé sexuelle.
Ah, j'adore, génial. Bah, je vais de toute façon mettre le lien vers le site internet et le programme parce que c'est nécessaire. Et puis, vous connaissant toutes les deux, suivant votre travail, c'est plus que nécessaire et ça va faire beaucoup de bien. Donc, merci pour tout ça.
Merci à toi.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, si vous avez une newsletter, mais sur aussi votre groupe familial de l'entourage, à envoyer sur WhatsApp, sur Messenger, par SMS, peu importe, à des personnes pour qui cet épisode pourrait être intéressant à écouter. Et puis, si vous voulez aussi diffuser de l'amour, de la bienveillance, du soutien inconditionnel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez mettre des étoiles, des cœurs sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou par email hello@camillebataillon.com. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite de bonnes expériences intimes. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.